Chronique de politique intérieure numéro 18. Chers auditeurs de Radio Silence, je vais vous parler aujourd'hui de la politique intérieure à servir au gouvernement mondial. Ce mardi 10 décembre eut lieu sous une pluie battante qui, selon la superstition officielle, démontrerait son arrivée au paradis, la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela dans le gigantesque stade de Soccer City à Soweto, dans la banlieue de Johannesburg, rassemblant 70 000 personnes. Une centaine de chefs d'État actuels ou anciens, de têtes couronnées, de même que Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, vint en S qualité saluer la mémoire du co-titulaire d'un des trop nombreux prix Nobel de la paix. Trois avions décollèrent lundi 9 décembre 2013 de Villacoublay, aéroport militaire ancien, dans un ordre calculé, pour qu'ils atterrissent quasiment ensemble à l'aéroport international de Johannesburg. Le premier, à 19h, un Falcon 900, emportait entre autres Nicolas Sarkozy, ancien président, sans son épouse. Le second, l'A330 présidentiel, emportait à 21h François Hollande, sa concubine, la délégation présidentielle et les ministres Laurent Fabius et Christiane Taubira, de même que l'ex-secrétaire général du Parti communiste français Robert Hue, actuel président du groupe sénatorial France-Afrique, l'évêque de Cayenne, Mgr Lafont, ancien curé de Soweto, Bernard Lapasset, président de l'International Rugby Board, qui remit la Coupe du Monde en 1995 à Nelson Mandela. Le troisième avion, un autre Falcon officiel, un peu plus tard, avec les invités de l'Élysée et le personnel technique. Pourquoi Robert Hue? Parce que le sieur Mandela était un activiste et un cadre des partis communistes africains, donc un des meneurs de l'internationale soviétique de l'ex-URSS sur ce continent. Pourquoi Kofi Annan? Outre son statut africain, parce que chairman du Conseil global, The Elders, les anciens chefs d'État, autoproclamés guides suprêmes mondiaux, mais très discrets, de tous les actuels chefs d'État, dont le fondateur fut justement Nelson Mandela en 2007. Parmi eux, on trouve pêle-mêle des faillis comme Jimmy Carter, Marty Atisahari, Mary Robinson ou Fernando Henrique Cardoso, ancien président du Brésil, et le cortège de tous les meneurs des idéologies génocidaires communistes et donc maçonniques mondiales du XXe siècle, avec de nombreuses figures des mouvements de la culture de mort pro-avortement. Autour, tout le monde, de la veuve Graça Machel, et toute la famille du bien-aimé Madiba. Je cite. Ce qui explique que tous ceux qui n'auront pas pu trouver place dans les trois avions français se répandent actuellement en excuses afin de tenter de laver cet insupportable défaut pouvant entacher leur carrière politicienne. Bref, tous les lèches-babouches qui constituent le vivier dans lequel le gouvernement mondial puise ce qu'il nous impose à toutes les places de direction du pays à chaque élection mascarade. Dans sa déclaration solennelle, Kofi Annan insista sur la perte du leader visionnaire, de la voix courageuse au service de la justice, de cet être tout entier fait de compassion qui sauva des millions de gens autour du monde et qui lui lègue au monde la paix et les droits de l'homme. Bien sûr, les Elders ne cesseront de s'inspirer de leur fondateur, béni soit son nom, qui était jusqu'ici membre honoraire de son organisation à 95 ans. J'en pleure vraiment. Derrière ce concert d'éloges et d'aplatissements honteux du politiquement correct planétaire, et au premier chef nos deux Lascar, président de la République française, devant la supposée haute figure publique de Nelson Mandela, adoré comme un archange de la paix selon un communiqué de Bernard Lugan, spécialiste de l'Afrique, le 6 décembre, l'envers du décor apparaît beaucoup plus satanique et criminel. J'extrais. Aristocrate Xhosa, issu de la lignée royale des Tembu, Nelson Mandela n'était pas un pauvre noir opprimé. Éduqué à l'européenne par des missionnaires méthodistes, il commença ses études supérieures à Fort Hare, université destinée aux enfants des élites noires, avant de les achever à Witwatersrand, au Transvaal, au cœur de ce qu'était alors le pays boer. devenu avocat à Johannesburg, loin des Gandhi ou Martin Luther King, Nelson Mandela était avant tout un révolutionnaire, un combattant armé, un militant, n'hésitant pas à faire couler le sang des autres. Il fut ainsi l'un des fondateurs de l'Umkhonto We Sizwe, le fer de lance de la nation, ça veut dire, aile militaire de l'ANC, qu'il co-dirigea avec le communiste Joe Slovo, planifiant et coordonnant plus de 200 attentats et sabotages qui le firent, et j'ajoute fort justement, condamné à la prison à vie. Il ne permit nullement une transmission pacifique du pouvoir de la minorité blanche à la majorité noire. Il n'a nullement évité un bain de sang à l'Afrique du Sud. La vérité est qu'il fut hissé au pouvoir par un président de Klerk, appliquant à la lettre le plan de règlement global de la question de l'Afrique australe décidé par Washington, lequel désintégra une armée sud-africaine que l'ANC pourtant n'aurait pas pu être en mesure d'affronter. Il empêcha la réalisation d'un État multiracial décentralisé, alternative fédérale au jacobinisme marxiste et dogmatique de l'ANC. Torpilla les négociations secrètes menées entre Thabo Mbeki et les généraux sud-africains, négociations qui portaient sur la reconnaissance par l'ANC d'un Volksstaat en échange de l'abandon de l'option militaire par le général Witjoen. Nelson Mandela laisse, de facto, un échec économique aujourd'hui total. Politique aussi, car l'ANC connaît de graves tensions multiformes entre Xhosa et Zulu, entre doctrinaires post-marxistes et gestionnaires capitalistes, entre africanistes et partisans d'une ligne multiraciale. Un conflit de générations oppose également la vieille garde, composée des Black Englishmen, aux jeunes loups qui prônent une libération raciale et la spoliation des fermiers blancs comme au Zimbabwe. D'ailleurs, l'ANC, alors en guerre contre le gouvernement blanc, tua une soixantaine de fermiers blancs de 70 à 94, on pourrait presque dire seulement. Depuis avril 94, c'est mieux, date de l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, plus de 2000 fermiers blancs ont été massacrés dans l'indifférence la plus totale des médias européens. Il n'a pas davantage pacifié l'Afrique du Sud, pays aujourd'hui livré à la loi de la jungle, avec une moyenne de 43 meurtres quotidiens. J'ai cherché, j'ai trouvé, la France en compterait moins de 3, selon Alternative économique et le site du gouvernement. Enfin, le mythe de la nation arc-en-ciel s'est brisé sur les réalités régionales et ethno-raciales, le pays étant plus divisé et plus cloisonné que jamais, phénomène qui apparaît au grand jour lors de chaque élection, à l'occasion desquelles le vote est clairement racial, les Noirs votant pour l'ANC, les Blancs et les Métis pour l'Alliance démocratique. En moins de 2 décennies, Nelson Mandela, président de la République du 10 mai 1994 au 14 juin 1999, suivi de ses successeurs Thabo Mbeki 1999-2008, puis Jacob Zuma depuis 2009, ont transformé un pays à l'extrémité australe du continent africain parvenu au standard européen en un état du tiers-monde, dérivant dans un océan de pénurie, de corruption, de misère sociale et de violence, réalité en partie masquée par quelques secteurs ultra-performants mais de plus en plus réduits, le plus souvent dirigés par des Blancs. Fin de citation. Ce décès d'un criminel contre l'humanité ultra-raciste, érigé en héros pacifique, présenté à l'adoration du peuple, me rappelle un certain Joseph Staline, surnommé le petit père des peuples. Depuis 1871, la plus sale engeance mondiale prétend gouverner le monde, et pour ce faire, n'hésite pas à détruire tous les ressorts des peuples civilisés, leurs identités, leurs anticorps génétiques, en quelque sorte, contre la dictature ethno-laïcarde, évidemment anti-catholique. On le voit en France, où le gouvernement, aux ordres des elders et des divers comités de prétendus sages, n'hésite pas à maltraiter à l'excès, dans le plus total mépris de ses propres lois, tous les opposants qui risqueraient de contrarier un peu sérieusement les plans anti-France, anti-civilisation, anti-humanité, conseillés, dictés par des gens comme ce Mandela, de sinistre mémoire, et que personnellement je verrais plutôt mort dans son cercueil, enfermé en geôle dans l'équivalent sud-africain du château d'If, comme le général Kléber le fut par Napoléon.